je suis tout à fait
moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasaï Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Plus de 100 personnes ont péri dans un naufrage survenu au confluent des rivières Nsolo et Baringa dans les territoires de Bassankoussou, province de l'Équateur. Cette gamme survenue dans la nuit de mercredi 10 septembre 2025 a été causée par la surcharge du convoi motorisé dénommé Bokenda. C'est le panel des experts de la société civile et coordination provinciale de l'Équateur qui a livré l'information dans un communiqué parvenu le vendredi à Radio Capi. Selon la même source, les victimes étaient en majorité des élèves. Et d'après le communiqué de cette structure de la société civile, 8 personnes ont pu être secourues grâce à l'intervention des riverains. Que pensez-vous de ces naufrages à répétition sur le fleuve Congo et sur les rivières ainsi que les lacs de la RDC? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse cpa@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79 099 706 80 79. Depsivita est à la mise en onde de ce magazine. Paul Badenyama assure le live de cette émission et Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, là, ces pays n'existaient pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont fait inscrire pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la récurrence des naufrages sur les cours d'eau de la RDC. Et pour échanger sur ce sujet, nous allons recevoir en ligne dans cette émission Clovis Elongama. Il est député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Il est également chercheur et doctorant en droit constitutionnel à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Je ne sais pas si M. Clovis est déjà là. Clovis Elongama, est-ce que vous êtes là? Voilà, il n'est pas encore là, mais entre-temps, nous avons déjà des réactions de la part des auditeurs. Certains qui nous ont déjà écrit, Fazili Kalunga Amos, il dit les agents de la DGM ne font que récolter l'argent, ils ne contrôlent jamais l'effectif. Christophe Kalenga, il dit les autorités doivent prendre leurs responsabilités en main en contrôlant la densité humaine et des charges, paix aux âmes disparues. Bongenya, dans la province de l'Équateur, c'est par voie maritime que les gens se déplacent souvent pour atteindre d'autres territoires. À ce stade, la responsabilité doit être partagée. Premièrement, les propriétaires de ces embarcations doivent savoir limiter les chargements et éviter la navigation nocturne. Enfin, l'État doit veiller au strict respect du port obligatoire des gilets de sauvetage et du surchargement avant de partir. Toussaint Kalombo, bonsoir et bonjour à la Radio Capi. Je viens par cette intervention à ces termes. Auparavant, l'ONATRA, en synergie avec le ministère des Transports et Voies des Communications, mettait à chaque rivière une drague pour l'entretien de la voirie maritime et les agents de l'État dans chaque port d'embarcation. Mais ces services ne sont plus. La grande erreur est qu'ils ont tué. Voilà, voilà. Ça, c'est voilà. On ne lit pas. Kadiata, il a fallu vérifier certains éléments au bateau. Puisque dans ces pays, tout est négligeable, il n'y a même pas les moments de concertation pour voir ce qui va bien et ce qui ne va pas. Héritier Mafuta, il y a tant de naufrages dans nos rivières. manque d'équipement de sauvetage. Junior Bompongo, depuis Kinshasa, le drame de Bassan Koussou n'est malheureusement pas un accident isolé. À travers le pays du fleuve Congo au lac Kivu, Tanganyika et Albert, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Surcharge, vétusté des embarcations, absence de contrôle étatique et corruption dans les services de navigation. Ces naufrages mettent en lumière trois faiblesses structurelles. Absence de régulation effective, pauvreté et manque d'alternatives de transport, impunité chronique, triste et réalité. Étant originaire de Bassan Koussou, je sais que ce drame n'est pas le fruit du hasard. C'est le miroir d'un État absent et d'une gouvernance qui sacrifie ses citoyens sur les flots. Ma question à l'invité, comment expliquer que malgré des décennies de drames et des milliers de morts, l'État congolais n'a toujours pas su instaurer une politique efficace de sécurité fluviale et lacustre? Voilà, je ne sais pas si l'invité Clovis Elongama est déjà là. On me signale qu'il n'est pas encore là. On continue avec les réactions des auditeurs qui nous ont écrit. Ici, c'est Emma Kabemba, depuis la province de Lomami. Ces drames en série révèlent un problème structurel de gouvernance dans les secteurs fluvial et lacustre en RDC. La surcharge, l'absence des gilets de sauvetage, le manque d'infrastructures portuaires et des mécanismes de contrôle exposent quotidiennement les voyageurs. Il est urgent d'ouvrir un débat national sur la sécurité des transports fluviaux afin de trouver des solutions durables. Freddy Mubenga, depuis Likasi, ce nouveau drame de Bassan Koussou est un cri d'alarme qui ne peut plus être ignoré. Plus de 100 vies perdues à majorité des élèves à cause d'une surcharge manifeste et d'une navigation nocturne interdite. Ce n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est le symptôme d'un mal plus profond. L'absence chronique des contrôles, le laxisme des autorités et la banalisation du risque sur nos voies navigables. Ce naufrage à répétition sur le fleuve Congo, les rivières et les lacs de la RDC révèlent trois failles majeures. Manque de régulation effective, culture de l'impunité, absence de secours organisés, pistes d'action urgentes, application stricte et contrôlée des lois existantes, formation et certifications obligatoires des conducteurs d'embarcation, mise en place des brigades fluviales de secours équipées, sensibilisation communautaire sur les risques et les droits des passagers. Voilà, on me signale que nous avons déjà quelques intervenants en ligne. Et donc là, nous allons partir où Julie Feza, qui est là-bas, voilà. Nous avons Maître Gaston depuis Kinshasa Gombe. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, Marcel.
Donc, c'est plutôt Guy Maté. Maître Gaston, vous avez la parole.
Allez. D'accord. Bon, j'allais dire que nous n'avons pas de choix. Si on nous proposait, par rapport d'abord aux moyens de déplacement, nous proposait plusieurs moyens de se déplacer, on ne pouvait pas choisir des pareils moyens de transport. Et puis, il est vrai que les problèmes des naufrages ici dans notre pays, surtout dans les coins où ça se passe, ou dans cette voie ici fluviale, c'est parce que ces gens-là n'ont plus d'autres moyens de se déplacer. Ce ne sont pas devant multiples moyens qu'ils peuvent choisir, mais devant des choix, on tient la mort, on l'accepte. C'est pour cela que vous voyez les gens qui doivent se déplacer en plainte des voies pareilles, et les risques sont permanents. Il arrive des fois que vous naviguez sans problème. Dans la plupart des cas, lorsqu'on monte dans des pareils trucs, on se remet des fois en dieu, on dit si on arrive, on peut la radier, et si on trouve votre place. Vraiment, il n'y a pas de choix. Les gens n'ont pas de choix, et c'est la condition que nous sommes placés dans ce pays. On n'a plus de choix, voilà ce qui nous arrive. Il y a même ce que vous faites allusion là, l'incendie qui s'est produit de l'autre côté là. Moi, je pense aussi que c'est toujours les conditions de vie que les gens sont soumis à vivre. Les gens sont là parce qu'ils n'ont pas de choix. ils doivent vivre dans ces conditions là où ils pensent vivre. Alors, des risques sont permanents et je ne sais pas comment pallier à ça. Mais moi, je pense que par rapport au cas d'espèce, il faut nous proposer plusieurs moyens. Surtout les ces gens-là ne doivent pas se déplacer seulement à la voie. Il n'y a pas de voies routières. De voies routières, il n'y a même pas les avions. Ils n'ont pas même l'argent pour acheter des billets. Et tout cela rentre en ligne de compte. Mais nous décrions la mort. Vous voyez, l'homme est devenu comme une chose, hein. Voilà, on n'en soucie même pas. C'est, peut-être vous n'avez pas perdu un de votre. Mais moi, je pense que ceux qui ont perdu de l'air dans de pareilles conditions, ça fait encore mal.
Merci. Bon,
que l'ARS prenne les choses en main. Vraiment faire qu'il y ait une bonne vie ici, les gens soient en dehors de danger, hein. Et les gens se sentent vraiment en sécurité dans ce pays, sinon nous décrierons chaque jour. Je ne sais pas longtemps qu'on a parlé de cette thématique.
Merci,
vous
merci,
voyez, Maître Gaston. On en parlera encore de mort, de mort.
Merci, bon, Maître Gaston. On a compris, Maître Gaston, depuis Kinshasa, ici à la Gombe. Nous quittons Kinshasa pour Vienne, en Autriche, où notre ami Franck de Vienne nous appelle. Franck, bonjour.
Bonjour à vous tous au studio, Monsieur Guy. Bonjour à l'invité, s'il est là avec vous en ligne au studio.
Voilà, allez-y.
Oui, merci beaucoup. Si nous devons seulement nous mettre à analyser la thématique telle que vous l'avez postée, il y a plus de questions existentielles à nous poser et peut-être que ce sont ceux du gouvernement qui pouvaient nous répondre. Personnellement, en lisant, je suis en train de me demander si la vie des compatriotes congolais des classes moyennes a encore un sens auprès de ceux qui nous dirigent. Parce que partout ailleurs, quand il y a 5 à 10 morts dans de telles conditionnalités, on décrète parfois un deuil national. Mais chez nous, on peut apprendre 30 morts, 40 morts, 100 morts par noyade, par tuerie ici et là. Et il n'y a parfois aucune déclaration, il n'y a aucun deuil, donc il n'y a aucune interpellation au niveau des sphères décisives. Et parfois, on est en train de se demander, est-ce que ceux qui nous dirigent ont encore le sens de l'existence des autres. Puis, des deux, on doit aussi se demander par rapport aux compétences qu'on confie à certaines personnes. Nous avons un ministère des Transports qui a beaucoup de compartiments. Il y a le compartiment ferroviaire, routier, fluvial, aérien. Et si nous devons regarder dans la plupart de ces compartiments, on a des problèmes de dysfonctionnement, on a des problèmes d'incohérence, on a des problèmes de désordre. Et dans la plupart des cas, quand il y a de tels incidents, aucune interpellation, aucune démission, en tout cas personne n'est inquiété au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Mais parfois ce qui frise encore le bon sens, c'est de voir quand il y a quelque chose qui ne pouvait même pas intéresser certains services d'intelligence, de sécurité, on doit aller chercher à brutaliser, à terroriser, à faire ceci, alors que pour des cas qui exigeraient vraiment autant d'attention de la part de ces services, c'est le silence radio. La politique, ailleurs, c'est chercher à organiser la vie des citoyens pour leur offrir des conditionnalités d'excellence. Mais quand maintenant on commence à offrir des conditions de médiocrité, dans des tortures, dans des l'éreignement total jusqu'à ces niveaux-là, ça fait très mal et on ne peut que se poser des questions. Mais quelque part, moi, je dois aussi interpeller les citoyens congolais parce que quand il est question de la campagne électorale, si on doit leur dire de voter sur base des projets de société, sur base des gens qui ont le sens des responsabilités qui devaient à leur défendre leurs intérêts au Parlement, on vote tribalisme, on vote coterie, on vote régionalisme, on vote sur base de bouteilles de bière, verres de sel, ainsi de suite. Alors, le peuple lui-même est aussi responsable parce que il n'est pas exigeant vis-à-vis de ceux qui le gouvernent.
Merci. Merci beaucoup,
quand
Franck.
Quand le peuple comprendra qu'il a des droits et des prérogatives, et quand ce peuple arrivera à se remettre à sa place, en exigeant ce qu'il mérite, je crois que beaucoup de choses changeront. Mais comme nous avons un peuple ou une mentalité d'un peuple qu'on peut utiliser comme une télécommande à dessein, donc ce peuple n'aura que des dirigeants qui l'auraient par rapport à conviction électorale qu'il placerait à tel ou à tel autre.
Merci beaucoup Franck Vienne, on a compris. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la récurrence des naufrages sur le cours d'eau de la RDC. Nous avons déjà commencé à échanger avec les différents auditeurs et nous allons aussi échanger avec notre invité principal qui intervient en ligne, c'est Clovis Elongama. Il est député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Il est également chercheur et doctorant en droit constitutionnel à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Bonjour Clovis Elongama.
Bonjour la radio du monde, bonjour à tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, honorable Clovis Elongama, les bilans que nous avons ici est celui du panel des experts de la société civile qui fait état de plus de 100 morts. Vous êtes également sur le terrain. Est-ce que le bilan a évolué ou bien il est resté le même?
Non, non. D'abord, je commence par présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les familles de Bassankoussou qui ont perdu les leurs. Et bien, par rapport à ce bilan, j'ai vu même sur Télé 50, j'ai regretté. Je ne suis pas l'avocat de l'État ou l'avocat de la mauvaise gestion, mais il faudra dire, nous devons avoir quand même le bon sens pour dire les choses telles qu'elles se présentent. D'ailleurs, à Bassankoussou, avant les noyades du convoi qui a eu lieu à Mondjenze, donc au campement Mondjenze, dans le groupement de Boyela, secteur de Wakabokeka, territoire de Bassankoussou, à 55 km du centre-ville de Bassankoussou. Bien avant cela, il y a eu d'abord une autre baleinière qui s'est noyée à Isantouka le 18 août 2025, soit
avant de parler du naufrage du 18 août, nous voudrions d'abord savoir si le bilan qui a été donné par rapport à l'accident, le récent accident, si ce bilan est resté le même ou il a évolué.
Non, non, il n'est pas du tout le même, parce que j'ai trouvé qu'il y a eu un peu d'exagération dans ce qu'on a dit. D'abord, il y avait 129 passagers à bord. Et dans cette embarcation, après le naufrage, il y a eu 21 disparus. Il y a eu 21 disparus. Il y a eu 96 rescapés et 12 morts. Voilà. Et 12 morts. Parce que le premier jour, c'était 8. Et le deuxième jour, on en a découvert 4. On en a découvert 4, ça fait un total de 12 morts et 21 disparus. Même si on peut supposer que ces disparus-là sont effectivement décédés, mais dire que plus de 100 morts, dont la majorité sont des élèves et des enseignants, moi je crois que c'est une fausse information qu'il faut nécessairement corriger.
Et selon la société civile, toujours, c'est la surcharge qui serait à la base de ce naufrage. Vous êtes sur terrain. À part cette question de surcharge, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces drames, Clovis Elongama?
Au-delà de ce que la société civile allègue, il faut savoir qu'il y a un comité local qui est piloté par Madame l'administrateur du territoire de Bassankoussou avec tous les services locaux. Et la société civile y comprise. Mais est-il que il n'y a pas que le surchargement, comme vous dites là, comme par rapport à votre question, il n'y a pas que le surchargement. Par rapport à cette embarcation, il y a eu à ces malheurs-là, il y a également le problème de la navigation nocturne que les autres auditeurs et nous-mêmes aussi avons toujours décrié. Et à cela, d'une manière générale, dans la province de l'Équateur, il y a aussi les mauvais états des embarcations qu'on voit là. Et il y a un manque de dragage de nos biefs navigables. Il y a également le manque de patrouilles fluviales où la tisse repasse qu'au niveau des Bicoro également, il y a des naufrages en répétition sur les lacs Tumba. Il y a également le manque de ports, de gilets de sauvetage, parce que la population est incapable d'en acheter. Il y a également le transport, parce que dans quelques jours, il n'y a pas trois jours, il s'est posé également un problème d'incendie au niveau de Loukolé, là, hein, au niveau de Loukolé, là, dans un campement, là, qu'on appelle Malangé, qui a été causé par le transport des produits inflammables dans la même baleinière, que les passagers. Donc, il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de raisons qui occasionnent ces naufrages à répétition dans la province de l'Équateur.
Clovis Elongama, il est dit que l'accident s'est produit la nuit, et vous l'avez vous-même confirmé. On se rappelle que parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, n'est-ce pas, pour réduire ces types d'accidents, il y a cette mesure qui interdit formellement la navigation pendant la nuit. Mais on a l'impression que les armateurs ne respectent pas cette mesure. Ils préfèrent tous voyager la nuit. Et quel est l'avantage de pouvoir voyager la nuit? Pourquoi les armateurs préfèrent voyager la nuit au lieu de le faire pendant la journée?
Au Congo, ce ne sont pas les lois qui manquent, Monsieur Guimaté, de la Radio Capi. Et ce qui manque, c'est la volonté politique. Ce qui manque également, c'est le suivi. Parce que je peux dire, nulle part au monde, une constitution prévoit la misère, mais la misère, on la trouve toujours. Eh bien, par rapport à cette situation, la responsabilité est vraiment partagée. D'une part, parler des avantages de voyager pendant la nuit, je crois que ce sont les armateurs ou les navigants qui peuvent répondre en soi à cette question, mais nous, en tant qu'élus, on fait partie du pouvoir. Nous avons échoué en quelque sorte pour mettre fin à cette circulation nocturne. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quand, au niveau des ports, les agents des commissariats fluviaux se trouvent là-bas, ils veillent à ce que les gens la quittent à temps. Mais, et des fois, ils fouillent. Ils ne veulent pas faire des formalités, d'une part, ils quittent les ports quand ils veulent ou la nuit. Eh bien, d'autre part, il y a également le manque de patrouilles dans le chef de l'État, parce que l'État est incapable d'organiser des patrouilles fluviales ou lacustres, parce que au cours de la route, ils continuent à prendre parfois des passagers et les produits. Eh bien, vous trouverez que ils quittent, on vérifie le tirando, on dit ok, vous partez, on donne le go. Et comme j'avais vu autrefois, on dit non, il faudra envoyer les photos à Kinshasa pour que Kinshasa puisse vérifier et voir réellement que les gens ont porté des gilets de sauvetage, et à la fin des comptes, Kinshasa va autoriser que l'embarcation puisse partir. Malgré cela, mais chemin faisant, ils embarquent d'autres passagers pour surcharger l'embarcation. Et cela est aussi à la base de ça. J'ai parlé du manque de dragage, pourquoi? Parce que, chemin faisant, et surtout pendant cette période de décrit d'eau, c'est-à-dire la période de sécheresse, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des sables qui apparaissent, il y a des morceaux de bois qui se trouvent sous l'eau, et bien qui, des fois, cognent les embarcations et provoquent aussi les accidents. C'est le cas, par exemple, du naufrage qu'on a enregistré le 18 octobre à août, comme je venais d'évoquer, en tout cas non loin de Bassangoussou, dans le groupement Ekombe.
Voilà, vous avez parlé des 12 morts et 28 disparus. Il est dit que la plupart de ces victimes étaient des élèves. D'où venaient-ils et où allaient-ils ces élèves?
Oui. Les élèves, en réalité, il y a certains qui étudient à Bassangoussou Centre. Et les autres étudient aussi là-bas à Bokenda ou dans le secteur de Wakabokeka. Et très souvent, pendant les vacances comme ça, il y a les enfants, il y a les élèves, il y a les étudiants qui vont chez leurs parents pour se ressourcer ou se ravitailler. Et après, ils vont se diriger là où se trouvent leurs écoles. Et c'est comme ça que vous trouverez que dans une embarcation, comme ça, les élèves prennent aussi les mêmes transports pour se rendre soit à l'école, dans les lieux où se trouvent leurs écoles, soit pour rejoindre leurs parents dans leurs villages respectifs. Eh bien, c'est ça.
Et donc, pour aller à l'école, ils doivent utiliser des embarcations. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de, des voies terrestres qui peuvent permettre à ces élèves d'aller paisiblement à leurs différentes écoles.
Non, non. Actuellement, nous venions des vacances.
OK.
Et quand la rentrée venait d'avoir lieu, vous le savez, c'est récemment, le 2 septembre ici, et l'accident s'est produit le 11 septembre. Vous voyez, soit dans un intervalle de 9 jours seulement, et comme la rentrée scolaire était aussi timide, eh bien, les enfants qui étaient partis en vacances chez eux, chez leurs parents, ils étaient en train de rentrer pour rejoindre le lieu où se trouvent leurs écoles. Donc, à Bassankoussou Centre, ils devraient quitter quand même le groupement Bukenda, qui est situé à 107 kilomètres. Même s'il y a des voies routières, ils ne peuvent pas quand même faire pied, parce que chez nous, il n'y a pas de véhicule qui circule jusqu'à là, jusqu'à ce niveau-là. D'ailleurs, l'état des routes est très, 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 très malheureux, parce que lorsque vous voyez, à l'époque, on avait l'office des routes, chez nous, on n'a pas connu dans les arrières, dans l'arrière territoire ou l'arrière province, il n'y avait pas des OVD, autres voies de, à autres, sociétés de voirie. Mais, au moins, il y avait office des routes. Mais depuis que l'office des routes est parti, les routes sont impraticables. Impraticables. Même si vous prenez la moto, vous pouvez faire, pour faire 107 kilomètres à moto, il faut faire au moins 5 heures, 6 heures du temps. Ce n'est pas facile.
Merci.
C'est comme ça que les enfants empruntent plutôt la voie la voie riveraine pour faciliter l'opération.
Merci, honorable Clovis Elongama. On vous garde encore dans cette émission. Mais là, on va retourner à notre standard. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Et je rappelle que vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la récurrence des naufrages sur les cours d'eau de la RDC. Et on en parle avec notre invité, l'honorable Clovis Elongama, député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Il est également chercheur et doctorant en droit constitutionnel à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retournons à notre standard et là nous allons à Lubumbashi avec Maître Patrick Odia à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour Guy Maté, bonjour à l'honorable et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Allez-y Maître Patrick Odia.
Merci de m'associer à ce niveau du débat. Guy Maté, j'ai eu le plaisir de participer à quelques émissions en 2024. Et là, le bilan était catastrophique parce qu'il y avait plus de 600 morts, j'allais dire plus de 600 disparus, mais également plus de 187 personnes décédés, au-delà des 225 personnes également qui ont eu la vie sauve grâce au professionnalisme et à l'intervention de certaines personnes également. Et ça s'est passé entre 6 mois, dans une durée de 6 mois également. 600 disparus, 180 quelques morts, on va faire total que des 800 quelques, à peu près 1800. À peu près 1800, quelque chose comme ça. Voyez-vous, ça c'est pendant 6 mois et en 2024. Et lors, nous avons fait cette émission, nous avons eu la chance également de pouvoir avoir le directeur du cabinet, le conseiller du ministre à l'époque, Jean-Pierre Mbemba, toujours, des transports, et qui avait pris des mesures plus récentes également contre les embarcations nocturnes, notamment également la surcharge, comment on va dire, surcharge également sur le bateau ou sur le pirogue également, mais aussi la mesure suspensive contre certaines autorités compétentes qui étaient négligentes pour prendre des mesures également. Et au jour d'aujourd'hui, les 10 et les 11, la même situation également se répète. On se pose la question, où est le ministre national? Qu'a fait le ministre pour assurer le suivi? Vous avez suivi les députés tout à l'heure, l'honorable invité, qui a soulevé les points sur le suivi de mesures prises par le gouvernement, qu'il soit national ou provincial également. Donc, dans cette histoire, ça relève tout simplement de l'irresponsabilité des autorités compétentes, mais aussi un certain laxisme coupable dans la gestion du trafic fluvial dans ces coins, Marcel. Et c'est toujours à l'Équateur, c'est toujours au Kivu il y a des morts de surveillance et tout ce qui va avec également. Alors, moi je pense, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je pense qu'il y a le manque de contrôle des embarcations et le non-respect des normes de sécurité. Jean-Pierre, même dans son arrêté, avait même autorisé, j'allais dire, insisté sur, on va dire, l'absence totale des secours organisés, mais aussi le port des gilets de sauvetage également. Mais quand ces personnes ont eu la chance de se mettre autour de, on va dire, sur la pirogue ou les pirogues également, et les bateaux également, est-ce que ces personnes ont-elles été sécurisées, sensibilisées sur les mesures sécuritaires, notamment les ports des gilets? Donc vous comprenez que ça relève de l'irresponsabilité, d'une part des autorités compétentes, mais d'autre part également de la population qui ne connaît même pas ses propres droits, Marcel et Guy-Mathé également. Parce que si moi je sais que je ne peux pas monter sur une pirogue, sur un bateau, sans les mesures de sécurité également préventives, je ne peux pas oser où je dois interpeller et dénoncer les faits. Mais du fait que la population est inactive également, accepte parce qu'elle ne s'enchaîne pas également ses droits, et nous arrivons à compter centaines de morts dans des jours également. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, Marcel Guy-Mathé, pour le moment? Je pense qu'il faudrait sensibiliser d'abord la population du coin, et en général, de la RDC également. Et également, des mesures doivent toujours être prises, allant dans le sens de sanctionner, mais comme si ce n'est pas la première fois également, il faut cette fois-ci mettre une commission, parce que Jean-Pierre même avait promis une commission. Mais jusqu'aujourd'hui, cette commission n'a pas été mise en place, qui va travailler ou qui devait travailler dans le sens d'assurer le suivi pour toutes les mesures, notamment en amont, tout comme en aval, des trafics privés également. Voilà un peu l'irresponsabilité du gouvernement provincial, national, mais aussi la non-reconnaissance ou l'ignorance des droits que la population également, c'est ce qui fait autour de tout ce qui va également avec. Et dans même l'arrêté également, on avait même interpellé, je fais le commissaire, c'est pas les normes techniques qui a été utilisée, pour interdire les embarcations nocturnes. Mais pour que les embarcations soient faites, il faut qu'il y ait les autorités qui aient signature de tel ou tel et tel. Moi, je pense qu'au-delà des sanctions suspensives, il faut passer également à la vitesse pénale pour qu'on arrête et que chacun réponde de ses responsabilités devant l'État. Et je pense que ça réduirait tant soit peu ces désastres que nous connaissons. D'une part, nous perdons, au niveau de l'Est, nous perdons les gens. Mais de l'autre côté également, nous perdons des gens à l'Équateur parce qu'il y a des trafics et il y a des autorités qui ne font absolument rien. Et monsieur le président de la République doit interpeller, doit prendre cette question à bras le corps en urgence pour le gouvernement congolais pour permettre d'épargner les vies humaines, Marcel Guy-Mathé.
Merci Patrick Odia, maître Patrick Odia. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Nous quittons Lubumbashi pour Kinshasa. Et là, c'est Junior Bopongo. Junior Bopongo, bonjour.
Bonjour Monsieur Guy-Mathé, bonjour à mon grand frère honorable député Clovis Elongama.
Vous avez la parole.
Permettez-moi de présenter d'abord mes condoléances à la population de Bassankoussou qui est endeuillée et qui traverse des moments difficiles en ce qui concerne les conditions de transport. Monsieur le journaliste, les drames de Bassankoussou et nous parlons aujourd'hui, tout comme ceux qui ont précédé, comme un drame, comme naufrage, n'est malheureusement pas un accident isolé. Parce que à travers le pays, en commençant, en partant du fleuve Congo, au lac Kivu, Tanganyika et Albert, pour ne citer que cela, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et quelles sont ces causes? Vous avez le chirchage, l'honorable à épingler. Vous avez la vétusté des embarcations, des fortunes, absence de contrôle étatique rigoureux, la corruption dans les services de navigation. Tous ces termes de mots trouvent à suffisance que l'État est trop complaisant au point que tous ceux qui pouvaient réguler ou mettre à l'ordre lui échappent. Et ces naufrages mettent en lumière trois faiblesses structurelles. Premièrement, il faut détecter l'absence des régulations effectives. Certes, il existe des règlements, comme par exemple le code de la navigation intérieure, mais ils ne sont pas appliqués de manière rigoureuse. L'État est trop laxiste. Deuxième faiblesse structurelle, c'est la pauvreté et manque, qui fait que aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas pensé à mettre des alternatives pour au moins sécuriser la population qui n'a pour autre choix que d'emprunter ses embarcations des forces.
Merci, merci.
Il n'y a pas d'alternative de transport. Les populations, je vais aussi l'impunité chronique, parce que on constate que l'État est vraiment n'est pas disposé à punir les coupables. Après chaque naufrage, promesses et enquêtes s'enchaînent, mais aucune responsabilité n'est véritablement établie.
Merci, merci Junior Bompongo. Vous appelez depuis la ville de Kinshasa. On me dit que nous avons en ligne aussi Monsieur Jean-Marie Abolia. Il est secrétaire général du ministère des Transports. Monsieur le secrétaire général Jean-Marie Abolia, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on avait souhaité vous avoir dans cette émission, mais compte tenu de votre agenda qui était trop chargé, on n'a pas pu vous avoir. Donc nous avons le député Clovis Elongama, qui est élu de Bassankoussou, qui est avec nous dans cette émission. Mais vous avez suivi les différentes réactions des auditeurs, et même de Clovis lui-même. On dénonce les manques, n'est-ce pas, des suivis des mesures qui ont été prises. C'est bien bon de prendre des mesures, mais il faut qu'il y ait un suivi, il faut que l'on puisse, n'est-ce pas, savoir établir les responsabilités. Chaque fois qu'il y a des accidents, mais on ne punit personne, on n'interpelle personne. Et voilà, on a parlé de cette question des surcharges, des vétustés, n'est-ce pas, des embarcations et des manques des patrouilles fluviales, d'absence de contrôle. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le secrétaire général?
Non, bon, merci beaucoup. Je ne me suis pas vraiment préparé à cette émission. Non, mais bon, comme il s'agit de notre pays, et, nous sommes obligés d'intervenir. Je dois d'abord vous dire que merci de l'invitation. Je voulais ici préciser que le travail est en train d'être fait. Les suivis, les mesures ont été prises par le gouvernement. Le suivi est en train d'être fait. Du moins, en ce qui concerne le ministère des Transports. Comme je l'avais toujours dit la fois passée, je le répète aujourd'hui, aucun navire, aucun bateau, qui ne peut quitter le port de Mbandaka, ne peut quitter le port de Kisangani, sans que, les images de vidéo, me soient transmises. Et dès que je les ai, j'envoie ces images-là au patron du ministère, lui aussi voit. Si c'est OK, nous demandons à au commissaire fluvial de délivrer le titre de sécurité pour que le bateau, la baleinière, quitte le lieu de chargement, soit pour Kinshasa, soit pour Kisangani ou pour n'importe quel coin de la République. Donc le suivi s'est fait. Mais il faut que nous comprenions aussi, nous avons un grand pays, chacun doit jouer son rôle. Il est quand même assez limitatif de dire que non, ce genre de problèmes peuvent être réglés seulement par le gouvernement central. Les problèmes doivent être réglés par nos populations eux-mêmes. Vous savez que la gestion de l'État aujourd'hui se fait à trois niveaux. Il y a le pouvoir central avec le gouvernement central. Il y a les provinces avec le gouvernement provincial. Il y a aujourd'hui, on va jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Là aussi, donc il y a un travail qui doit être fait. En ce qui concerne le gouvernement, je vous dis que le suivi des mesures se fait jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de dimanche pour nous. Moi, je suis secrétaire général, mais l'autorité me demande toujours d'avoir mon téléphone, même le dimanche. Et on essaye d'épargner la vie des innocents. Donc, on le fait.
Monsieur le secrétaire général.
Je dois vous dire aussi que...
Monsieur Abolia.
S'il vous plaît.
Oui, vous avez annoncé le fait que vous exigez avant que l'embarcation ne puisse partir, et vous exigez qu'on puisse vous envoyer les images et vous essayez de les analyser et puis vous autorisez aux armateurs de pouvoir partir. Mais est-ce que si vous faites les contrôles au départ, donc en amont. Est-ce que le même contrôle est fait en aval? Parce que il est dit aussi que pendant les parcours, les armateurs se permettent de prendre des gens qu'ils trouvent sur des îlots, ils les embarquent, et là, ça échappe à votre contrôle.
Justement, c'est pourquoi je dis que il faut pas qu'on dise que c'est seulement l'État. C'est une affaire de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que nous sensibilisons nos populations. Il faut que nous sensibilisons les armateurs, les propriétaires des navires, de ces bateaux, qui cherchent vraiment leur profit parfois en négligeant les vies humaines. Donc c'est ça. Donc le travail doit être fait à tous les niveaux. Le gouvernement doit faire sa part, mais la population doit aussi faire sa part. C'est pourquoi, par exemple, au moment où je vous parle, le pays est passé de 11 provinces à 26 provinces. Le cadre organique qui réunit le ministère de Transport, Voies de Communication, donc le secrétariat général, date de 2002. Quand le pays avait 11 provinces. Ben, avec cette migration, nous avons affecté les gens sans faire des réformes et affecter des gens avec des compétences précises, des compétences territoriales, etc., de manière précise. Et au moment où je vous parle, dans le programme d'action du gouvernement, la modernisation de l'administration publique est une priorité. Et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et de l'Environnement, sous la houlette de la Première ministre, a pris toutes les dispositions pour que nous puissions actualiser notre cadre organique. Comme ça, chaque province, avec la configuration de 26 provinces, va couvrir l'ensemble des commissariats fluviaux. On saura que tel commissariat fluvial gère autant de ports et à travers autant de postes. Et ce travail-là est en train d'être fait. Le gouvernement a mis les moyens. On s'est retrouvé avec les amis de la fonction publique. On a travaillé. Je pense que d'ici la fin du mois, merci, nous allons avoir un cadre organique qui corrobore maintenant avec les 26 provinces.
Merci
parce
beaucoup.
Que si vous prenez par exemple le port d'Akoula, sur la rivière Bongala, en montant vers Businga. À gauche, ça appartient actuellement à la province du Sud-Ubangi. À droite, c'est sous la responsabilité de la province Mungara. À l'époque de du Grand Équateur, on avait un seul commissaire fluvial qui gérait ces ports. Alors, on a migré, on n'a pas réglé cette question. Or, la partie de gauche revient maintenant à la province du Sud-Bangui. Il faut qu'on affecte un commissaire fluvial qui va rendre compte au gouverneur de province.
Merci. Et
la partie droite, il faut qu'on affecte un commissaire qui va. Ce sont des réformes qu'on n'a pas faites. Et aujourd'hui, avec le gouvernement, sous la houlette de Félix, monsieur le Premier ministre, ministre des Transports, voire des communautés des enclavements, c'est une priorité.
Merci.
Et on a fini. Nous avons déjà les conclusions, on est en train de finaliser. La volonté du gouvernement, c'est de réduire. Mais ce n'est pas une affaire de deux personnes. Et puis, il faut éviter de parler de l'État, parce que c'est un peu vague. C'est une affaire d'État. Comme on disait quand nous étions jeunes, Seigneur, Ngaï, Bisso, Bino, c'est tout le monde. Il faut que chacun puisse jouer sa partition. Donc, les réformes sont en train de faire par le gouvernement pour répondre à cette préoccupation. Bien entendu aussi, j'ai entendu l'honorable qu'il n'y a pas d'alternative. Mais je l'ai dit, je l'ai répété avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Aujourd'hui, on est en train de construire. J'ai demandé que l'honorable député passe à la RVF ou passe au chantier naval de l'ONATRA. On est en train de construire des embarcations métalliques. L'idée ici, selon la vision du président, que porte son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est de remplacer les unités en bois par les unités métalliques.
Merci.
Et des unités qui auront quand même, qui tiendront compte de certains conforts, parce que on voit un peu comment les nôtres sont transportés, surtout par le fleuve Congo.
Merci, donc, merci, monsieur le Général Jean-Marie
Boulia. Position pour que ça marche. Donc, on ne peut pas, ça ne sera pas un coup de baguette magique. Il faut commencer et les efforts sont en train d'être faits. Je voulais insister pour que l'honorable député puisse jouer sa partition dans la sensibilisation
De la population. Voilà, vous avez dit qu'il y a un contrôle qui s'est fait en amont, mais les témoignages qui nous viennent de Mbandaka affirment que les passagers, n'est-ce pas, embarquent sans gilet de sauvetage. Et donc ça s'est fait tous les jours, même actuellement, et ils disent qu'il n'y a pas de contrôle. Lorsqu'on vous envoie des images, est-ce que vous tenez compte aussi du fait que les gens doivent porter les gilets de sauvetage, les CG?
Je vous dis, heureusement, nous sommes à la radio, mais chaque jour, ce que je dis ici, je suis secrétaire général, je ne peux pas engager la responsabilité de mon ministre, mais je lui fais parvenir chaque jour. Je dis bien chaque jour à son excellence monsieur le VPM, le dimanche, la nuit. Les vidéos.
Les passagers sont. Ils portent des gilets de sauvetage.
Les commissaires, s'il vous plaît, les commissaires fluviaux, je pense qu'ils m'écoutent, hein, que le commissaire fluvial de Mbandaka, par exemple, parce que c'est lui le modèle, m'envoie régulièrement. Ce que vous dites là, c'est beaucoup plus grave. Si vous voulez me dire que non, lui, il nous envoie des images de complaisance, c'est beaucoup plus grave.
Bon, ça c'est les témoignages qui viennent des auditeurs qui sont à Mbandaka.
Alors, il faut toujours faire attention, vous savez, chez nous, n'importe qui peut se permettre aussi n'importe quoi. Hein.
Merci,
mais le travail est en train d'être fait.
Merci, monsieur le secrétaire général Jean-Marie Abolia. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des transports. Merci d'être intervenu dans cette émission. Nous allons retourner à notre standard où nous allons à Kasongo, à Kindu, où notre auditeur nous appelle Jean-Claude Sefou. Jean-Claude Sefou, bonjour. Jean-Claude Sefou, bonjour. Allez-y rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps.
Oui, bonjour Guy Maté. Au fait, mes prédécesseurs ont presque tout dit, mais sinon moi je vais dire que c'est la défaillance de l'État. L'État, notre gouvernement a démissionné. Et comme mon souhait, le plus ardent, c'est celui de voir le ministre des Transports démissionner parce que rien n'est fait. Donc, nous sommes en train de constater sans notre vouloir qu'il y a des pertes en vies humaines, alors qu'on devrait sauver tous ces vies humaines-là qui sont perdues.
Merci.
Voilà, c'est ça, mais un peu mes mots parce que vous me prenez déjà presque à la fin de l'émission, Guy Maté.
Merci beaucoup pour votre compréhension. Et donc, il y a les condensés des réactions, une production de Julie Fezabongonda. Les réactions des auditeurs à du naufrage de Bassankoussou illustrent des positions variées allant de l'appel à la responsabilisation à des critiques acerbes du système politique favorable, ce qui appelle à la responsabilité, à une meilleure gouvernance, à des solutions et dénonce l'inaction avec un ton sérieux et constructif. Ces auditeurs reconnaissent la gravité du drame, demandent une meilleure régulation, responsabilisation des acteurs publics, une application stricte des règles de sécurité et la sensibilisation des populations. Ils proposent des mesures concrètes pour éviter ce genre de tragédies, exprimant un appel à l'action collective et organisée. Il s'agit de Christophe Kalagba, Pires Bongenya, Toussaint Kalombo, Junior Bompongo, Emma Kabemba, Freddy Mubenga, Melchi Mwania, Eric Mungija Kissa, Edouard Aliango, Chance Louagera, Modeste Biembe, Blaise Saïdi. Et les positions défavorables, ceux qui expriment de la colère, accusations envers le gouvernement et autorités, dénonciations fortes sans ouverture positive notable. Les critiques sont acerbes envers le gouvernement et les autorités accusées de corruption, de laxisme, d'abandon des populations. Certains expriment leur désespoir quant à l'absence des réactions concrètes malgré les pertes humaines répétées et mettent en cause les élites politiques pour leur égoïsme et compétences. Il s'agit de Fazili Kalunga Amos, Guillaume Prakash, Ezekiel Pendekazi, Christophe Pongo Pidi, Jérôme Diedoné Mutombo Lumpungu, Franck de Vienne, Patti Mahimba, Justin Kalabia, Kazimoto Mulopwa Idelfonso. Et ceux qui sont neutres, observations, interrogations, plaintes simples ou remarques sans attachement clair à une prise de position forte. Les intervenants relèvent surtout les manques de préparation et d'équipement pour la sécurité sur les rivières, mais sans développer une accusation directe. Ils expriment l'inquiétude quant au contexte des négligences, mais restent en retrait dans l'analyse politique. Il s'agit de M. Kadiata et héritier Mafuta. M. Clovis, une question qui vous est adressée. Comment la RDC pourra-t-elle enfin instaurer une politique sérieuse et efficace pour assurer la sécurité fluviale et sauver ses citoyens des tragédies à répétition? Monsieur Clovis Elongama.
Merci, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur le secrétaire général nous a consommé presque tout le temps. C'est mon co-débatteur du 7 avril 2025. Mais il avait toujours donné cette promesse-là. Il m'a invité à passer là-bas pour voir comment on est en train de fabriquer les embarcations en acier. Mais nous sommes jusque-là dans ce qu'on appelle les chapelets de bonnes intentions. Mais la réalité, elle est encore tout autre. Même si c'est un processus, parce qu'on ne fabrique pas un bateau en un jour ou en un mois, mais au moins ça prend du temps. Dans longtemps, la population de l'Équateur continue à périr ou à mourir. Alors,
En guise de conclusion, qu'est-ce que vous proposerez, qu'est-ce que vous allez faire comme recommandation à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de la population?
Il y a des difficultés. Oui.
Allez-y rapidement parce qu'on a passé du temps.
Auquel le comité local de sécurité est en but, pour rapatrier les corps, pour la restauration des rescapés, pour le logement de ces rescapés, l'enterrement des décès, tout ça, les entités déconcentrées au Congo comme l'administration du territoire n'a aucun frein au terme de fonctionnement. Et même au niveau des entités décentralisées dans l'autorité, dans le secrétaire général fait allusion, il n'y a pas de rétrocession. Ça fait pratiquement une année que ces entités ne touchent plus à la rétrocession. Comment ils peuvent faire face à toutes ces difficultés?
Et votre mot de la fin? Des recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la population?
Et au moment où il s'attelle à mettre sur pied les baleinières en acier ou métallique, les bateaux, c'est une bonne chose. Mais à cela, il faut ajouter également la formation des agents des commissariats fluviaux, la formation des navigants et le patrouille. Parce que ces patrouilles-là doivent permettre à ce que les navigants ne puissent pas surcharger.
Et à la population, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à la population?
En conclusion, il faut nettement. Pardon?
À la population, qu'est-ce que vous lui dites?
Allô?
Qu'est-ce que vous dites à la population?
À la population d'être prudente. La population doit être prudente parce que nous avons la responsabilité de mobiliser, bien sûr, mais la sécurité, elle est d'abord personnelle.
Merci.
Et cette population doit être devant ses risques.
La population doit être prudente. La population doit être prudente, on a retenu cela. C'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité Clovis Elongama, député provincial élu de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Il est également chercheur et doctorant en droit constitutionnel à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission, notamment le secrétaire général M. Jean-Marie Abolia, le secrétaire général des transports. Merci également à Def Vita qui est à la technique, Paul Badianyama et Billy Landry Betou qui ont assuré les lives de cette émission. Julie Fezabongonda a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.